Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci. Merci d'être venues si nombreuses et nombreux pour accueillir Eric Nolot, que nous sommes vraiment ravis de recevoir à la Libre Imola. Eric Nolot, c'est j'évite d'employer tout le temps le mot vieux, vieille, tout ça, parce que mais c'est une vieille connaissance de la librairie, puisque les libraires le connaissaient bien avant que ce soit une vedette de la télévision. Et de mon côté, Eric Nolot, c'est quelqu'un que je connais depuis presque 20 ans, peut-être, que j'ai connu moi-même, j'étais quasiment un enfant. Et Eric Nolot était en
J'aurais beaucoup à dire à ce sujet.
était un jeune éditeur vif, entreprenant, qui ne s'en laissait pas compter ni par les grandes ni par les petites librairies. Ça a été à la fois une vraie surprise et un vrai plaisir de voir que tous ceux qui connaissaient un peu Eric Nolot et qui pouvaient apprécier son franc-parler, son mordant, sa culture, a pu rencontrer un public assez vaste, tellement vaste que maintenant c'est presque une vedette de la télévision. Alors, je ne suis peut-être pas la personne la plus indiquée pour l'interroger, mais malgré tout, c'est sur moi que le sort est tombé, puisque je n'ai pas la télévision. Et donc, le personnage télévisuel d'Eric Nolot m'échappe un tout petit peu. Alors, donc, je vais avoir un côté parfois un peu innocent, mais ce n'est pas plus mal. Alors, je suis allé, bien entendu, sur Internet, qui est désormais une sorte de télébis, et sur lequel, quand on tape Eric Nolot, on voit défiler un nombre de choses considérables. Et notamment, le mot le plus fréquent, c'est le mot « clash ». J'ai l'impression que c'est un mot qui s'est répandu sur Google. Et on associe beaucoup le mot « Nolot » à « clash ». Donc, j'ai pu assister à quelque chose comme ça. On va en parler. Mieux qu'un prétexte, c'est la sortie de ce livre, qui s'appelle « Pourquoi tant de haine ?» qui nous a permis d'inviter Eric Nolot, un livre édité par Jean-Claude Gassevitch, un livre épais de 400 pages qui rassemble donc des chroniques littéraires, sportives, des chroniques politiques, de presse et de radio. Alors, s'il fallait essayer de définir Eric Nolot, je pense que plein de gens ont essayé de le faire, des journalistes, des gens de médias. On peut lui coller plein d'adjectifs. Il est éditeur, j'en ai parlé. Il dirige une maison qui s'appelle L'Esprit des Péninsules. Et le libraire que je suis a un peu la nostalgie de cette excellente maison d'édition. Si vous voyez traîner des livres de l'Esprit des Péninsules, il n'y a pas beaucoup de choses à jeter. Sur les 200 livres, je crois, qui sont parus, il me semble que c'est 200. C'est un producteur, c'est un animateur, comme on dit, un dialoguiste, un chroniqueur, sportif et littéraire. Il a été traducteur aussi. Et puis maintenant, on peut même dire qu'il confirme son statut d'auteur, puisque c'est son quatrième ou cinquième livre sous son nom. Et puis, j'ai appris aussi qu'il a créé un nouveau prix littéraire, sans doute le 8590e prix littéraire français, qui s'appelle le prix Claude Milan. Ne cherchez pas dans Wikipédia Claude Milan, vous ne trouverez pas. Donc, il nous dira à l'occasion qui c'est. Donc, c'est quelqu'un qui est un esprit, au XVIIIe siècle, on aurait dit un esprit universel, quelqu'un qui n'a pas de frontières. Et c'est un plaisir pour une grande librairie universelle comme la nôtre de le recevoir. Alors, c'est un homme qui est, on peut dire, honni par beaucoup de gens, mais en même temps respecté par un public qui a le sentiment qu'il a affaire à quelqu'un qui ne triche pas, ou qui triche pas, qui joue le jeu médiatique, mais qui ne triche pas. Un critique dont on se souvient malheureusement, et c'est aussi un problème, plus des coups de griffe que des caresses. Et puis enfin, on en parle avec lui, c'est quand même une des rares personnalités du monde médiatique parisien à être à la fois bulgarophile et bulgarophone. Et donc, c'est une personne avec qui vous pouvez parler de la Bulgarie, j'imagine, pendant des heures. Ce que je ferai volontiers avec vous ce soir, mais qui n'est pas du tout le sujet
de la conversation. C'est dommage, j'avais prévu de ne parler que de la Bulgarie.
Il terminera cette soirée par une petite chanson bulgare, voilà. Peut-être celle avec laquelle il endort ses enfants depuis des années. Voilà. Si vous êtes gentil, si vos questions sont sympas. Voilà. Alors, dans un de vos articles, vous lâchez un truc qui est « Décidément, je suis né trop tard ». Dans une époque trop sage, déclarate-vous en 2011, est-ce qu'il y a chez vous un sentiment de nostalgie, le fait, avec le caractère que vous avez, de ne pas coller avec notre époque ?
Je vais répondre à cette question et en profiter peut-être pour répondre à une question qui était en creux dans votre sympathique présentation. C'est que moi, je me définis assez facilement, puisque tous les métiers, vous en avez oublié quelques-uns, mais tous les métiers que vous pourriez énumérer, que j'ai pratiqué, que je continue de pratiquer, peuvent être résumés à un seul, c'est celui de lecteur. Moi, j'ai l'impression de n'avoir fait toute ma vie qu'une seule chose, c'est-à-dire lire. Sauf que ça a porté des noms différents. D'abord, ça s'est appelé écolier, ensuite ça s'est appelé collégien, lycéen, étudiant à la fac, ça s'est appelé traducteur, éditeur, chroniqueur, etc., que ce soit à la télévision, à la radio ou pour la presse. J'ai plutôt pratiqué la presse, d'ailleurs, contrairement à ce qu'indique Internet. Et donc, je n'ai fait que lire. J'ai eu cette chance qu'on m'ait demandé de pratiquer une seule profession, celle qui me plaît le plus, celle de lecteur. Oui, moi, à l'époque, ça ne me... Notre époque ne me plaît pas du tout. D'abord, je suis assez nostalgique de celle des duels. Je trouve qu'il y a un moment, quand on ne peut plus argumenter, c'était bien de pouvoir régler le problème sur le prêt. Bon, ça ne veut pas dire qu'on soit obligé de s'embrocher. Vous savez, il y avait cette règle qu'on arrêtait au premier sang. Donc le premier qui saignait, c'était arrêté. On pensait que l'honneur, et voilà. Et sur les plateaux de télévision, j'avoue que de temps en temps, je suis tombé sur de telles buses. Et des gens tellement obtus, je me suis dit, voilà, pourquoi on ne règle pas ça au fleuret. Donc voilà, et bien ensuite, oui, je trouve que c'est une époque qui s'amollit un peu. Je trouve ça un peu mou d'un point de vue intellectuel. Il m'a semblé qu'il y avait eu, même dans un passé récent, alors dans la vie en général et dans la télévision en particulier, des époques où en effet régnait une plus grande liberté d'esprit, contrairement aux apparences. On est dans une époque, certes, du ricanement généralisé. Ça, on peut ricaner tant qu'on veut. Mais je trouve que les esprits libres ont tendance à se raréfier. Donc je me sens pas forcément à l'aise dans cette époque. Ça ne veut pas dire que j'aurais préféré vivre au 18e ou au 19e, ou je ne sais, ou au temps préhistorique. Mais simplement, je me sens un peu en décalage par rapport au temps présent. C'est une remarque très juste.
Et en même temps, vous dites aussi... Pour reprendre, je pense, ou pour parodier les propos de quelqu'un de célèbre, la nostalgie est toujours ce qu'elle était. C'est-à-dire que la nostalgie a toujours, chez vous, droit de cité. Alors, on va en parler après. Mais quand on lit le livre, qui est comme un rassemblement de chroniques, il est traversé par quelque chose qu'on pourrait appeler, non pas une mélancolie, mais une certaine nostalgie. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un de nostalgique ?
C'est, l'affaire est un peu plus compliquée que ça, dans la mesure où il arrive, c'est vrai pour certaines générations, pas pour toutes, que l'âge auquel vous êtes le plus réceptif à ce que vous lisez, à ce que vous entendez, à ce que vous voyez, coïncide objectivement avec un âge d'or, c'est-à-dire avec une époque très vivace sur le plan intellectuel. Alors, je prends un exemple qui va nous sortir un peu de la littérature, mais il se trouve que moi, je suis né en 61, c'est-à-dire qu'en 77, j'avais l'âge vraiment adéquat pour recevoir tout ce qu'on a appelé le punk et toute en musique, la musique punk et tout ce qu'il y avait autour. Et c'est vrai que moi, je suis resté très scotché sur cette époque parce que tout d'un coup, on a vu arriver en l'espace de 2-3 ans une telle avalanche de groupes d'une telle qualité que je n'ai jamais retrouvé ça par la suite. De même, j'avais à peu près 20 ans quand j'ai vu arriver... c'est pas qu'il s'est arrivé, mais il y a eu une sorte de redécouverte d'auteurs qui me tiennent à cœur, comme Gaden, comme Calais, comme Boff. Tout est arrivé à la même époque. Moi, je trouve que c'est une très, très grande littérature et je l'ai découverte au moment où j'étais le plus réceptif. Et j'ai plutôt la nostalgie de cette coïncidence entre un âge très réceptif et des époques objectivement très riches. Après, j'échappe pas à une règle assez commune. Une sorte de nostalgie de l'enfance, puisqu'il y a dans l'enfance aussi une manière de recevoir les choses de manière beaucoup plus violente émotionnellement. C'est sûr que à peu près à l'époque que je mentionnais pour la musique punk ou la littérature, de regarder un match de Saint-Étienne, par exemple, ça me jetait dans des états que je ne retrouve pas maintenant, même si vous seriez très surpris de me voir devant un match de football quand c'est par exemple l'équipe de France qui joue, ça me jette dans des états incroyables. Mais alors, quand j'avais 15-16 ans, je mettais des semaines à m'en remettre. Voilà. Donc j'ai vraiment la nostalgie de ces époques où...
Où la ferveur était quand même plus...
Oui, forcément. Forcément. Bon, alors, je ne veux pas... Encore qu'il y ait quelques articles sur le football dans Pourquoi tant de haine, mais il est vrai aussi que maintenant, vous pouvez passer tout le week-end, par exemple, de match en match, alors qu'à l'époque, il y avait un match tous les 15 jours. Donc c'était aussi un événement. La nostalgie, c'est plutôt ça, plutôt que le scrogneugneux qui vous dit c'était mieux avant. Moi, je suis pas sûr.
C'est pas mon
angle d'analyse, non.
Alors le livre dont on parle ce soir, c'est Pourquoi tant de haine, un titre très très commercial, on va dire, qui est un livre qui rassemble des chroniques très différentes. J'en ai parlé. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à rassembler ces textes? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit tiens, ça y est, mon petit vieux, t'as l'âge, tu peux rassembler, faire une auto-anthologie?
C'est-à-dire que c'est vrai que moi, l'idée ne m'était pas venue naturellement. Et un jour que je déjeunais avec Jean-Claude Gazevitch, l'éditeur, c'est vrai que dans la conversation, mais complètement par hasard, j'ai mentionné le fait que cela faisait 20 ans tout rond que je publiais des chroniques régulièrement. Et Gazevitch m'a dit, mais 20 ans, il faut quand même marquer le coup. Pourquoi tu ne fais pas un choix parmi tes chroniques? Et c'est vrai que l'idée m'a paru très séduisante sur le moment. J'ai déjà eu l'occasion de le lire beaucoup moins le lendemain, parce qu'il a fallu retrouver tous les textes. Et comme je ne suis pas très archiviste de moi-même, c'était un peu compliqué. Et puis surtout que j'avais perdu un vieil ordinateur sur lequel il y avait en tout cas les premières chroniques. Donc déjà, les retrouver, c'était pénible. Ensuite, il y a un côté un peu lassant à se relire soi-même, je trouve. Au bout d'un moment, on en a marre de soi-même. Or, il fallait bien faire ce travail pour savoir quelles chroniques retenir et lesquelles ne pas retenir. Et puis ensuite, c'est terrible, parce qu'il faut faire un choix. Quelle chronique avait résisté au temps, quelle chronique n'avait pas résisté. Bon, au total, moi, je suis assez satisfait du résultat final. Ça correspond en tout cas à l'idée que je m'en faisais au départ. Mais je dois dire que l'idée n'est pas de moi, mais je suis ravi d'avoir accédé à la demande de Jean-Claude Gadzevitch. Après, pourquoi tant de haine ? Là, le titre est de moi. Voilà, j'ai joué sur mes initiales. Il y a un petit clin d'œil aussi dans le Diablotin au chanteur du groupe AC/DC, un groupe que j'aime bien. Voilà, j'ai semé des tas de clins d'œil. Et puis, c'est vrai que vous avez commencé par le dire, je trouve que ce livre est une bonne occasion peut-être de corriger une image un peu caricaturale, celle que donne la télévision et celle que donne encore plus Internet. Internet ne retenant de la télévision que les moments un peu forts du genre ceux qu'on catalogue comme clash, ou moments de tension, ou etc., etc. Et j'ai pris conscience, c'est peut-être de la naïveté de ma part, mais que pour beaucoup de gens qui regardaient la télé, je n'étais que cet homme de télé et qu'ils ignoraient vraiment complètement des articles de fond. Je ne parle pas du côté qualitatif, parce que ça, c'est à vous d'en juger. Mais en tout cas, quantitativement, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'articles aussi importants qui étaient consacrés à Ismail Kadare ou à Claudio Magris ou à Peter Esterhazy ou à Jörn Rill. Donc tout cet aspect de mon travail qui est au fond le principal, parce que la télévision c'est un peu l'écume, l'écume de mon activité professionnelle, restait inconnu et je trouvais que c'était une bonne manière de tout remettre en perspective et de montrer que j'étais peut-être quelqu'un de plus compliqué que ce qu'en renvoyait le petit écran.
Alors choisir, donc c'est éliminer, donc vous avez éliminé, on ne saura jamais, enfin si on peut savoir, mais on ne saura jamais. Et en regardant tout ça, en vous regardant, alors c'est vrai qu'on vous imagine mal ayant collé dans un petit cahier tous les articles, tout ça, ou votre femme en train de le faire, en train de découper, mais est-ce qu'en relisant ça et en mettant un fil conducteur, est-ce que vous avez eu le sentiment de voir se dégager quelque chose, c'est-à-dire une sorte de ligne directrice, de voir apparaître, somme toute, quelqu'un que vous soupçonnez que vous êtes, parce que vous vous connaissez bien, mais voir apparaître des choses qui sont ou des tentations, ou des tropismes, des choses comme ça. Est-ce que ça vous a permis de vous regarder ?
J'ai retrouvé des grandes fidélités. En gros, mes amours de jeunesse sont restés mes amours d'âge mûr. La littérature, le football, la politique. Bon, ça, je dois dire, bon, il n'y a pas de surprise à attendre, puisque en réalité, c'est resté des passions très fixes. Durant ces 30 dernières années et durant les 20 années que couvre le livre. Après, oui, j'ai eu quelques surprises. Notamment, j'ai découvert un tropisme un peu mystique que je ne soupçonnais pas. Il est beaucoup question, notamment dans les entretiens avec les auteurs que j'ai mentionnés, il est beaucoup question de la grâce, il est beaucoup question d'expérience mystique, notamment... j'ai eu l'occasion d'interviewer Nicolas Bokov. Nicolas Bokov qui a une trajectoire très étrange parce qu'il a commencé comme dissident en Union soviétique. Il a fait un samizdat qui est paru chez nous sous le titre « La tête de Lénine ». C'est l'histoire d'un Russe qui décide de voler la tête de Lénine dans le mausolée. Et puis, j'allais dire, il a fini, c'est pas vrai, il n'a pas fini, il a évolué justement dans une veine très mystique. Il a eu une révélation un jour qui l'a amené... un cheminement à la fois spirituel et physique. Il s'est dépouillé de tout. Il a fini comme clochard. Il a même raconté cette expérience de clochard dans les rues de Paris. Et je donne cet exemple, mais il y en a plusieurs à travers le livre. Donc, forcément, quand vous rassemblez 20 ans de vos propres écrits, il finit par s'en dégager une forme d'autoportrait. Et même si ce n'était évidemment pas le but d'origine, c'est vrai que j'ai constaté, après l'avoir lu et relu, parce que... ça fait partie de l'édition. On doit lire et relire au moins 4 ou 5 fois un texte avant de le confier à l'imprimeur. Et j'ai eu la surprise de constater et de découvrir certains aspects de moi-même que j'ignorais ou que je sous-estimais plutôt.
Alors, une autre constante qu'on trouve dans vos attachements, enfin dans ce que vous avez retenu, c'est la notion de frontière, notamment. C'est-à-dire que vous êtes très sensible à ces écrivains qui parlent de ces limites, des limites de l'empire, des limites de quelque chose, ou des gens qui sont de l'éloignement, Jörn Rill, vous parlez de Jörn Rill, Esterházy, des gens comme Claudio Magris ou Cadaré. Est-ce que c'est quelque chose qui importe pour vous, par rapport à votre vie personnelle, qui fait que vous avez vécu à l'étranger, etc., et que vous êtes capable d'avoir une vision, par exemple, de la France qui soit différente de ces gens qui ne sont restés qu'en France? Est-ce que vous avez ce sentiment-là?
Oui, certainement, mais il faut dire que pour moi, la frontière, comme beaucoup de gens de ma génération, la frontière, ça a d'abord été, ça paraît un temps très lointain maintenant, mais celle qui séparait les deux Europes. Il y avait l'Europe occidentale et il y avait l'autre Europe, celle qui commençait derrière le rideau de fer, que certains nommaient l'Empire du Mal. Et pour des raisons... alors là, j'ai du mal à expliquer. Moi, j'ai toujours été fasciné par l'Europe de l'Est. C'est une fascination qui a d'abord eu beaucoup à voir avec le football. C'est que quand je regardais un match de l'équipe de France ou de Saint-Etienne en Bulgarie, un pays qui allait, vous l'avez rappelé tout à l'heure, jouer un grand rôle dans ma vie, ou dans feu l'Union soviétique, moi, j'étais fasciné par l'alphabet cyrillique. Parce que je regardais le nom des joueurs français, je me disais, mais ils sont gonflés, ces gars-là, parce qu'il y a certaines lettres, ils les respectent, puis d'autres, c'est vraiment n'importe quoi, le N à l'envers qui fait un I, enfin tout ça, et n'importe quoi. Et c'était à la fois très proche, c'était des pays qui étaient à 1h30 ou 2h d'avion, et très éloignés politiquement, culturellement, etc. Et cette passion m'a jamais quitté, et puis elle a même connu d'autres formes, d'autres développements. D'abord, quand j'ai découvert, moi, ça a été un choc pour moi, l'œuvre d'Ismaïl Kadaré. C'était un grand choc littéraire. Parce que là, il parlait, alors non seulement d'un pays qui était très proche, d'un pays presque méditerranéen, qui était, dans lequel on pouvait aller en 2 heures d'avion, et qui était une sorte de dictature dont on peut trouver l'équivalent aujourd'hui dans la Corée du Nord. Il y avait une Corée du Nord qui était sertie au cœur de l'Europe, chose très étrange, où c'était une tragédie de Shakespeare au jour le jour, les opposants disparaissaient. Sur un mode plus folklorique, il y a eu une époque où les touristes arrivaient à la frontière albanaise étaient priés de se couper les cheveux et de se couper la barbe avant d'entrer dans le pays. C'était un truc très étrange quand même. Et j'ai découvert un continent littéraire qui est celui de l'œuvre de Kadaré, quelqu'un qui, dans des circonstances extrêmement contraignantes, d'une dictature farouche, sanguinaire, est arrivé à construire ce que je considère encore comme une des plus grandes œuvres du XXe siècle. J'aime moins Kadaré, d'ailleurs, c'est curieusement, depuis qu'il est installé en France, je trouve que c'est plus ça. Mais ça suffit, puisqu'il a fait au moins 20 grands livres dans la période dictatoriale. Et puis, le hasard s'en est mêlé. À l'époque, il y avait encore un service national et on avait le choix entre le service militaire et le service civil. Et moi, j'ai fait un service civil et j'ai été envoyé comme professeur en Bulgarie. C'était encore le temps du communisme, juste avant la chute du mur, de 86 à 88. J'étais même pas à Sofia, dans une ville de province. Et j'ai découvert ce que c'était que la vie au jour le jour dans un régime communiste qui n'avait d'ailleurs... c'était pas du tout le goulag, hein. Les gens vivaient très, très paisiblement, très tranquillement, de manière plutôt heureuse. C'est un pays... très agréable, la Bulgarie, très beau, avec des gens vraiment très sympathiques, avec un petit côté méditerranéen aussi. La mer Noire a beaucoup à voir avec la Méditerranée. Mais j'ai vu ce que c'était qu'un système quand même de répression au jour le jour, puisque un jour, une de mes élèves est venue me dire « Mais monsieur, vous savez, on est tous membres des Komsomol, les jeunesses communistes. À ce titre, on est 2 par classe, on doit faire des rapports sur vous. » Elle m'a raconté le système et on a décidé, suite à cette conversation, d'ailleurs, d'établir ces rapports ensemble. Donc, les rapports qu'elle présentait au Komsomol, et c'est presque moi qui les rédigeais. Mais il y avait un système comme ça de surveillance. Mais la contrepartie, c'était que toute cette moitié de l'Europe était la moitié de l'Europe où on prenait le plus au sérieux la littérature. Moi, je crois qu'en France, on prend très au sérieux les livres, mais beaucoup moins la littérature. Là-bas, la littérature, la poésie notamment... c'est pas un art d'agrément, c'est pas quelque chose que vous lisez le soir avant de vous endormir ou qui est chargé d'agrémenter votre digestion. C'est quelque chose qui est aussi indispensable que l'air qu'on respire. Voilà, il y a des poètes partout, la poésie est un genre majeur. Vous êtes bien placé pour savoir qu'hélas, en France, malgré les efforts de Mola, où il y a une très belle section poésie, c'est pas du tout la même chose. Et on voyait cette scène qui va vous laisser rêveur, mon cher David, c'est que quand il y avait une nouveauté littéraire, certes, on ne trouvait pas tout, puisqu'il y a un système de censure, comme je le disais, assez féroce, Mais quand il y avait des nouveautés littéraires, on voyait des queues devant les librairies pour les acquérir. Donc voilà. Alors, peut-être ça arrive pour 50 nuances de degré,
oui, peut-être. Ce sont des queues furtives.
Voilà, c'est furtif. Tandis que là, c'était toutes les semaines.
Ce sont des queues dans le pantalon, plutôt.
Et voilà, exactement. Donc, cette passion pour l'Est, mais continue à me faire vivre, à me nourrir. Ça a bien sûr débordé sur ma vie privée. Je suis marié avec une Bulgare. J'y retourne très souvent. Et ce sont des pays dans lesquels je me sens bien, notamment parce que ce rapport à la culture, je trouve qu'il est un peu distendu en Europe de l'Ouest et particulièrement en France, malgré ce réseau de librairies, malgré tous ces livres qui paraissent, et que je le retrouve de manière vivace dans l'ancienne Europe, l'autre Europe qui est maintenant l'Europe communautaire unie.
Oui, et que vous le trouvez encore maintenant, malgré tout. Ils n'ont pas été gagnés par, justement, ce mode de fabrication, par exemple, des best-sellers, des choses comme ça. Est-ce que vous avez le sentiment qu'eux-mêmes vont basculer à la suite ?
Non, mais ils ont basculé, bien entendu, parce que, ils ont eu affaire à une transition très violente entre le communisme et toutes ces tares, et puis le capitalisme sauvage, qui est non moins ravageur. Donc, ils ont pris vraiment ces deux fléaux de plein fouet. Mais il reste quand même ce formidable fond culturel où moi j'étais invité chez les parents de mes élèves, et ce que vous voyez dans la bibliothèque chez un bulgare moyen, c'était les œuvres complètes de tous les grands auteurs bulgares, évidemment, de tous les grands auteurs russes et de tous les grands auteurs français. C'était quand même un autre rapport à la littérature. Vous aviez pour la France, alors évidemment c'était tout Zola, tout Balzac, c'est sûr que vous n'alliez pas trouver des auteurs subversifs, mais quand même il y avait un rapport à la culture, et il en reste des traces.
D'accord. Alors, vous, à la moindre occasion, on peut dire que vous nous ramenez vers le football, qui est un tropisme que vous assumez totalement.
Tout à fait.
Et les chroniques, alors vous avez rassemblé dans le livre des chroniques de football de façon assez inattendue. Alors déjà, est-ce que ça vous a paru un peu provocateur de mélanger des chroniques sur Claudio Magris et des chroniques sur des joueurs de football dont plus personne ne se souvient à part vous ? Et en quoi, selon vous, ça a traduit aussi l'état d'une culture, ou de votre culture, cette façon de dire on peut passer du sport, du football, le sport le plus populaire, le sport de masse, à quelque chose qui est plutôt l'élitisme, qui serait la culture et la littérature. Pourquoi vous mettez ça ensemble, en fait ?
Moi, franchement, je ne vois pas pourquoi on devrait séparer l'humanité en deux, ceux qui aimeraient Proust d'un côté et ceux qui aimeraient Zidane ou Messi de l'autre. Je pense qu'on... Enfin, en tout cas, j'en suis la preuve vivante et pas isolée, parce que à ce moment-là, ce serait un cas clinique intéressant à étudier en tant que tel. Mais enfin, bon, il se trouve que j'ai autant d'admiration pour certains footballeurs que pour certains écrivains. Notamment, j'ai cité Zidane. Zidane a élevé le football à un autre niveau. C'était le football plus Nijinsky. C'était aussi une manière d'écrire une épopée. Mais j'ai évidemment réservé au football plutôt la portion congrue, parce que 80% du livre est consacré à la littérature. Mais à partir du moment où je voulais que le livre soit représentatif de tout ce que j'aimais, j'avais aucune raison de classer les choses entre nobles et moins noble, d'autant que dans mes chroniques footballistiques en général,
c'est là que je voulais dire.
Voilà, j'essaie de rapprocher la littérature du théâtre, le football du théâtre, le football du roman, le football du cinéma. À chaque fois, ce sont des chroniques un peu mixtes.
Voilà, ou même faire intervenir le football quand vous parlez de littérature, etc. Pour vous, la culture n'est pas cloisonnée. En tout cas, elle peut être partout. Et votre verve peut s'éprouver partout.
Moi, j'ai autant de plaisir à écrire sur la littérature que sur le football. Et puis, par exemple, il y a un grand article sur Peter Esterházy, qui pour moi est un des très très grands auteurs européens d'aujourd'hui, qui a été un footballeur tout à fait convenable, quoi. Enfin, il jouait en troisième division. Enfin, voilà. Et moi, j'ai fait une petite carrière de footballeur amateur, mais vraiment à tout petit niveau. Ça m'empêchait pas de rentrer après le match et de prendre un livre. Je trouve que ce cloisonnement n'a pas vraiment lieu d'être.
Voilà, il est quand même très français aussi.
Oui, mais je le regrette parce que
la place du sport dans la littérature est absolument ridicule, ou alors c'est toujours de façon un peu caricaturale. Enfin, est-ce que c'est pas aussi un syndrome du mal français qui est qu'on a tendance à créer des chapelles ou des frontières ou des barrières ? Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment de transcender un peu ces barrières ? C'est-à-dire que, vous savez, les écrivains, quand ils sont auteurs de pièces de théâtre, il ne faut pas qu'ils fassent de la poésie. Quand ils sont romanciers, on leur demande de ne pas faire autre chose. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ça et que vous essayez aussi de reculer cette frontière-là en vous disant je peux passer d'un espace à l'autre et rester le même Éric Nolot.
Ce que vous décrivez, là, c'est le système très français des cases. C'est-à-dire on aime bien mettre les gens dans des cases. Et je suis assez bien placé pour vous en parler, puisque ce livre, par exemple, assez curieusement, a fait l'objet de pas mal de recensions. Je n'ai pas trop à me plaindre, mais pas dans la presse littéraire. Pourquoi ? Parce que je passe à la télé. Et donc, c'est un péché mortel. Pour le petit milieu germano-pratin, je commets l'irréparable, je passe à la télé. Donc, si vous voulez, voilà un livre qui, curieusement, parle à 80% de littérature, mais qui a été chroniqué dans Voici, mais pas dans Le Monde des Livres. Qui a été chroniqué dans Point de vue, Image du Monde, mais pas dans le supplément livre de Libération. Alors, je fais une exception pour Le Nouvel Observateur, qui a fait un très joli papier, d'ailleurs, sur ce livre. Enfin, c'est assez curieux. Donc, ce système de cases existe, mais... Faire tomber les barrières, si je peux y contribuer, tant mieux. Mais à mon avis, les barrières, elles tombent d'elles-mêmes. Moi, je le dis sans affectation, sans snobisme. Je pense que le plus grand polar que j'ai lu de ma vie, c'est un polar qui a pour thème le football, d'un grand auteur britannique, David Peace. C'est un livre qui s'appelle 44 jours.
Vous en parlez d'ailleurs bien dans le livre.
Voilà. Et franchement, ce n'est pas parce que ça parle de football. C'est simplement que c'est un grand polar et que le thème importe peu. Je pense qu'on peut faire de la grande littérature... avec du football ou avec autre chose. Peut-être pas avec son nombril, malheureusement, qui est une spécialité française. Donc là, mais encore que, bon... Ou alors on s'appelle Proust. C'est très bien, on peut disséquer, mais malheureusement, il y a un Proust tous les deux siècles et on n'a pas retrouvé l'équivalent. Mais David Peace, Peter Esterhazy, dont je parlais, a consacré des livres au football qui sont vraiment, je pense, de très grands livres, à égalité avec d'autres, le reste de sa production. Je ne vois absolument aucune différence, en tout cas d'un point de vue technique et d'un point de vue personnel, entre entamer un article sur le football ou entamer un article sur la littérature, le théâtre ou le cinéma. C'est pour ça qu'ils cohabitent dans ce livre.
Alors, la lecture, vous vous présentez comme un lecteur, ce qui est assez rare, hein, parce qu'a priori, le lecteur en France passe pour quelqu'un qui a du loisir, hein, c'est une activité de loisir, donc vous seriez presque une sorte de dilettante.
Oui.
Et en même temps, la lecture réclame une sorte de lenteur, de temps, et on a le sentiment en même temps de se dire que est-ce que vous avez toujours, avec la vie que vous êtes en train de mener désormais, d'avoir cette lenteur qu'on peut réclamer pour découvrir une œuvre, etc. Ou est-ce que ce n'est pas justement la limite que vous allez atteindre? Qui fait qu'est-ce que vous pourriez désormais maintenant découvrir un auteur de l'importance de Cadaré, par exemple, dans la vie que vous menez, ou dans le rythme effréné que l'on vous contraint de mener ?
Non, mais c'est sûr que j'ai des emplois du temps compliqués, mais enfin, je ne suis pas le seul. Hein. C'est malheureusement... Il y a un article que je consacre à Youri Olesha, et Youri Olesha, un grand auteur d'Odessa, de la première moitié du XXe siècle, et dans les années 20, il disait, c'est une époque de dingue, on n'a plus le temps de lire que dans le métro et encore sur les escalators.
Oui, c'est pour ça qu'il faisait des petits textes.
Voilà, ouais. Ça date des années 20, vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui. Bon, alors moi, professionnellement, effectivement, ce que dénonce Olesha, j'y suis confronté de manière peut-être encore plus vive. Mais je crois qu'on peut prendre le temps. D'abord, moi, par exemple, pendant l'été, c'est ça qui est bien à la télévision, c'est qu'on a les vacances scolaires, hein, quasiment. Mmh. Moi, pendant l'été, je refuse... Par exemple, de lire la rentrée littéraire.
Vous n'avez pas droit à ce bonheur de la rentrée. Vous le reportez à plus tard.
Je le reporte à plus tard. Pourtant, je reçois les livres tout comme vous, mais j'en fais un tas d'un côté et je ne lis que des classiques pendant 2 mois ou des choses que j'ai laissées de côté. Je fais ça aussi pendant les périodes des fêtes de fin d'année et ça m'a permis, par exemple, de rattraper par les cheveux 2 livres que j'avais mis de côté, 2 livres allemands de l'Est, comme par hasard. Ville des anges de Christa Wolf, hein, qui a été une sacrée claque. C'est un des plus beaux livres moi, que j'ai lu depuis longtemps. Et Eugène Ruge, quand la lumière décline. Mais voilà, simplement, ça demande pas mal de discipline, ça demande pas mal de constance. Il ne faut pas se laisser happer par la nouveauté. Et moi, j'arrive quand même pendant l'année ou pendant les périodes de répit que je mentionnais, j'arrive quand même à, ne serait-ce que pour ma raison mentale, à lire ce que j'appelle des vrais livres et à laisser un peu de côté les livres obligatoires. Parfois, les livres obligatoires peuvent coïncider avec des grands livres, mais ce n'est pas la règle générale.
Alors, la télévision est une sorte de grande machine à dévorer l'actualité, les nouveautés, etc. Vous êtes souvent pris dedans. Qu'est-ce qu'être critique ? Alors, vous êtes en grande partie critique à la télévision ou à la radio, mais dans les médias qui sont du domaine du temporaire. Voilà. Est-ce que ce média, à mon avis, rend la chose possible ? Est-ce qu'il n'y a pas de l'ordre d'une gageure à être critique, précisément, dans tous ces systèmes où la rapidité, où les choses s'estompent ? Est-ce que vous n'êtes pas confronté à ça ? À la différence du moment où vous étiez critique au Matricule des Anges, et vous pouviez prendre le temps d'écrire 20 feuillets ou 40 feuillets sur Claudio Magris.
Non, mais c'est certain que Je pense qu'il y a toujours eu un malentendu entre la littérature et la télévision. La télévision n'est pas un média qui est adapté à la littérature. Alors, parfois, on arrive à trouver une sorte d'arrangement, quoi. Il y a eu des époques où on avait un peu plus de temps. Moi, quand j'étais adolescent, je maudissais apostrophe. Pour moi, c'était le comble de la prostitution intellectuelle. Voilà, maintenant... Avec le recul, j'y vois un âge d'or.
Oui, tout le monde dit à l'époque d'apostrophe.
Bah, oui, parce que
les libraires le samedi, vous voyez déferler des.
Bah oui, ma grand-mère le samedi m'offrait systématiquement un livre qu'elle avait vu à apostrophe. Et d'ailleurs, c'était marrant parce qu'elle m'offrait pas souvent ou pas toujours, en tout cas le meilleur. Elle m'offrait celui dont l'auteur avait fait la plus vive impression. Moi, c'est ça qui m'énervait. C'est-à-dire qu'en effet, j'avais plus de chances de recevoir Dormesson que Modiano, pour prendre deux exemples opposés.
Ça vous a permis de découvrir Vincenot, et ça, c'est chouette aussi.
Oui, non, mais il y avait des bonnes surprises. Simplement, pour moi, c'était vraiment la prostitution de la littérature à l'ordre médiatique. Si j'avais su ce qui allait se passer après, à l'époque d'apostrophe, je pense qu'un auteur qui parlait 5 minutes... c'était considéré comme un tunnel. Après, ça a été 2 minutes, après, ça a été 1 minute. Et maintenant, au bout de 15 secondes, vous voyez dans l'œil de l'animateur une étincelle de panique en se disant « Merde, ça fait déjà 10 secondes qu'il parle, les gens sont en train de zapper, de décrocher, au secours. » Donc effectivement, parler de littérature dans ces conditions, ça devient, ça relève de la gageure, en effet. Mais il y a toujours des moyens de s'accommoder, de tricher un peu avec le
système. Vous êtes un peu dans ce...
J'essaye. Mais c'est la même chose. Par exemple, je ne suis pas censé... Normalement, Paris Match, dans lequel j'officie, n'est pas un hebdomadaire dans lequel on est censé parler de grande littérature. C'est plutôt les têtes d'affiche. Et voilà, moi, j'ai fait des articles, c'est presque de la contrebande, sur Pirotte, sur Patrice Delbourg. J'ai même fait 2 articles sur Patrice Delbourg. Donc il y a un côté comme ça, voilà, d'essayer de jouer la subversion en douceur. Mais fondamentalement, la télévision n'est pas le lieu où on peut parler... de manière pertinente de littérature, ça j'en conviens volontiers.
Alors je vais vous faire une citation pour qu'on puisse... vous dire, la télévision publique a démissionné de sa priorité, la culture. Je crois qu'il y a une place pour une émission du genre du masque et la plume sur France Inter, à condition qu'on ne confonde pas la culture et le culturel. Je m'explique, les médias, et plus particulièrement la télévision, courbent les chines devant l'ordre culturel des attachés de presse et des éditeurs. Le culturel est destiné à faire vendre. La culture, elle, impose de rentrer dans les détails et les arguments. Trop de travail, pas assez vendeurs. L'enjeu de la télévision est considérable pour l'industrie culturelle et notamment l'édition. Plus de 50% des livres publiés ne génèrent pas une seule ligne dans la presse. 10% des auteurs goinfrent tout. Passer à la télévision, c'est truster de la visibilité et une chance de survie. Est-ce que c'est une analyse très, très sombre, tout ça, mais qui me donne l'impression que vous êtes passé des deux côtés du mur, c'est-à-dire en tant qu'éditeur, vous avez connu ça, savoir d'être invisible. Et vous êtes, maintenant que vous êtes de l'autre côté, vous avez le sentiment que malgré tout, ça ne change pas.
Non, mais ça ne change pas parce que très simplement, vous parlez de tableau sombre, c'est un tableau très réaliste. L'ordre de la critique se confond de plus en plus à la télévision, il se confond presque intégralement avec l'ordre de la promotion. C'est-à-dire ce sont en effet les attachés de presse qui règlent le petit balai, c'est-à-dire qu'elles décident des livres, enfin, les attachés de presse au nom des éditeurs, hein, c'est pas elles en tant que telles, je dis elles parce que c'est un métier surtout féminin, mais les éditeurs décident de quels sont les livres importants, et ils parviennent à en convaincre sans peine les critiques. C'est ça qui me paraît le plus... Je vais vraiment illustrer ça par une anecdote. Quand j'étais encore éditeur, une saison, je me dis, bon, là, il faut vraiment que je fasse un effort. Cette fois-ci, je vais jouer le jeu de la rentrée littéraire. À partir du mois de mai, je prends des rendez-vous avec tous les journalistes qui comptent. Et je me retrouve avec une journaliste un jour du Monde des Livres. Et je commence à lui faire l'article. Je dis, voilà ce que je vais faire à la rentrée, ceci, cela, et puis ce livre, ceci. Et je sais pas quoi. Elle accroche sur un des livres. Elle me dit, mais ça, ce serait bien qu'on en parle. Ben, ça pourrait être dans le 3e ou le 4e numéro de la rentrée, c'est-à-dire fin août ou début septembre. Elle me dit, parce que nos 2 premiers numéros, on était au mois de mai, hein, sont déjà plus ou moins complets. Et je lui dis, mais comment ils peuvent être complets? Elle me dit, oui, on aura des articles sur... c'est déjà Christine Angot, elle me cite je sais pas quoi. Et je lui dis, mais vous les avez lus, les livres? Ah, non. Donc en fait, les livres, les places des livres étaient déjà réservées sous En fait, sur plan, si j'ose dire, on réserve sur plan, quand on achète sur plan, on ne sait pas si le livre de Hango, ça va être un petit roman pornographique minable comme son dernier ou ses dessins d'enfants, mais peu importe, il faut lui réserver sa place et ça vaut pour quelques... Voilà. Et ça marche comme ça, c'est-à-dire que l'ordre promotionnel s'impose à tous. Alors évidemment, après, tous les journaux essaient de passer en contrebande quand même des articles sur des, voilà, sur des livres un peu moins attendus. À la télévision, bah, c'est simple, c'est en général... ce dont on parle, dont il faut parler à la télévision. Sinon, on a l'impression de mal faire. Donc, vous allez, pendant 15 jours, n'entendre parler que de quelques livres, que de quelques films, alors qu'il en sort 15 par semaine, que de quelques pièces. J'essaye de subvertir cet ordre, modestement, dans mon émission, Ça balance à Paris. Alors, évidemment, on sacrifie en partie à l'ordre que je dénonce, mais j'essaie d'équilibrer en parlant de livres qui sont peu vus ailleurs. J'essaie aussi de le faire dans, dans Paris Match. Mais en gros, 95% du système est mobilisé au seul profit de la promotion.
D'accord. Alors, vous êtes, triste. Ouais, vous êtes fait un an, vous, il y a pas mal d'années maintenant, en tant qu'éditeur et auteur, avec une querelle assez importante avec, avec le monde des livres. Alors, donc vous avez connu ce que fut d'affronter un média comme ça de façon assez violente au nom d'une certaine idée que vous avez de la littérature, qui était qu'il y a des bons auteurs et de mauvais auteurs. Vous avez ce sentiment qu'un auteur a des défauts et qu'on peut le dire. Est-ce que vous avez toujours ce sentiment qu'on peut et qu'on doit dénoncer les comportements ou les défauts des auteurs? Est-ce que c'est le rôle d'un critique? Vous annoncez, par exemple, il y a un passage étonnant dans votre livre, où vous dites, c'est la rentrée 2008, je pense, et les auteurs qui étaient très en vue, Hango, Houellebecq, Millet, se sont ratatinés. Et en même temps, dans le livre, vous annoncez en disant, ça y est, ce que j'avais annoncé arrive enfin, les baudruches se dégonflent. On est 5 ans plus tard, je n'ai pas l'impression que les baudruches se soient beaucoup dégonflées, Houellebecq a eu le Goncourt, Hango continue à caracoler. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le combat est toujours... est sans cesse à recommencer et surtout qu'il est impossible à gagner, même si vous avez eu la peau des gens du monde.
C'est-à-dire, ça dépend de ce qu'on, ça dépend de ce qu'on entend par le mot succès ou le mot insuccès. Moi, je ne pense pas qu'en dehors de 3 arrondissements parisiens, on prenne vraiment Christine Hango au sérieux comme écrivain. Je ne le crois pas. Je pense que tout le monde a compris. Je ne pense pas que, par exemple, ce qui a été tenté comme opération de capitalisme littéraire, c'est-à-dire les entretiens croisés de Houellebecq et Bernard-Henri Lévy, qui était vraiment une manière différente de faire de l'édition très à l'américaine, c'est-à-dire on prend deux types, on construit un projet complètement artificiel et on gonfle ça par la promotion. Je n'ai pas l'impression que ça ait marché et... En tant que baudruche intellectuel, Bernard-Henri Lévy, comme dégonflement, c'est assez spectaculaire quand même. Je ne sais pas combien vous en vendez chez Mola, mais d'après ce que j'entends chez vos confrères, c'est quand même assez spectaculaire. On est passé du grand philosophe à pas grand-chose. Donc quand même, je pense que les baudruches se dégonflent, même si d'autres se regonflent instantanément.
C'est c'est pas un système de vase communicant qui fait quand même se dégonfle l'autre...
Non, mais de toute façon, il serait très naïf de ma part de vouloir battre le système. Vous ne pouvez pas battre le système. Le système est plus fort que vous, la télévision est plus forte que vous, et le système promotionnel littéraire, pour rester dans la littérature, est plus fort que vous. Simplement, effectivement, vous parlez d'une réputation, la réputation, mais... que j'ai justifié semaine après semaine, de quelqu'un qui dit droit dans les yeux à un auteur ce qu'il pense de son livre. Et ce qui... Bon, déjà, moi, je trouve que la nouveauté que j'ai apportée à la télévision n'est pas celle-là. J'ai apporté à la télévision... c'est Ardisson, d'ailleurs, qui dit ça, un autre homme de télévision. C'est que tout d'un coup, moi, je basais mon jugement sur la lecture du livre. Ça peut paraître une évidence. Or, c'est l'exception à la télévision, et ça se voit. Moi, j'ai vu un jour un animateur, à la fin d'une petite séquence avec un auteur, sortir un livre et dire « Et je recommande ce livre qui est formidable, je ne sais pas quoi. » Et il regardait sur la quatrième de couverture, non pas pour savoir de quoi il s'agissait, mais, enfin de l'histoire, je veux dire, mais même de quel genre il s'agissait. C'est-à-dire qu'il ne savait même pas si c'était un recueil de poèmes, de nouvelles, un roman, un opéra, un livret d'opéra. Il ne savait pas. Donc on voit bien qu'on est quand même dans le foutage de gueule total. Donc moi... Ma règle, c'est très simple, c'est le texte, tout le texte, rien que le texte. Et ensuite, en effet, je dis à l'auteur, puisque j'étais dans cette position, placé dans cette position, je dis droit dans les yeux ce que j'en ai pensé. Et bien moi, quitte à risquer un paradoxe, je trouve beaucoup moins violent, en réalité, de dire à quelqu'un droit dans les yeux, après avoir lu son livre, qu'il a commis une daube, plutôt que de lui dire, sans avoir même ouvert son livre, comme votre livre est merveilleux, cher ami, est tellement meilleur que celui de l'année dernière, mais tellement moins bon que celui de l'année prochaine, je n'en doute pas. Mais voilà, je trouve ça, d'abord plus honnête, ça va sans dire, mais je trouve ça moins violent. Je trouve qu'il y a quelque chose de très... Mais même moi, j'en ai fait l'expérience, c'est que j'ai fait dans un premier temps pas mal de promotions, comme on dit, pour ce livre en France. Et je suis tombé sur des gens qui, d'évidence, ne l'avaient pas lu ou très peu lu, s'étaient arrêtés à la page 20. Donc ça donnait des choses parfois très attristantes, quoi, vraiment. Et après, j'ai fait une tournée en Belgique, quelque chose d'assez violent d'ailleurs, parce que vous arrivez à 9h du matin, vous repartez à 9h du soir, et vous avez 12 rendez-vous entre-temps, radio, presse, télé, etc. Et
comme les vedettes de cinéma.
Oui, absolument. Et même un petit déjeuner-conférence sur la critique qui était très sympathique. Je suis tombé que sur des critiques qui avaient lu le livre, crayon à la main, qui avaient pris des notes, qui me parlaient de mon livre de manière très intelligente, en tout cas qui posaient des questions, et je vous assure que j'étais submergé par un sentiment de gratitude. Parce que tout d'un coup, vous dites, voilà, j'ai pas écrit complètement pour rien. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un livre sur lequel on ne puisse pas avoir de réserve ou, je ne sais pas, dire même émettre une opinion négative, mais vous êtes en face de personnes qui ont pris au sérieux votre travail. Et moi, je trouve qu'au lieu de me décrire, comme vous l'avez fait tout à l'heure, là, en reprenant Internet, où c'est vrai, Internet, on me traite de tête à clash, de mauvais garçon, etc., tout d'un coup, je trouve que les écrivains auraient dû, d'une certaine manière, m'être reconnaissants, parce que ce n'est pas tous les soirs à la télévision qui tombait sur quelqu'un qui prenait au sérieux le livre. Que le livre soit le roman d'un tel, ou les confessions de Patricia Cass, ou peu importe. Moi, de toute façon, je lisais tout, de la première à la dernière ligne. Je le prenais au sérieux, il y avait 10 pages de notes, et je discutais, en tout cas, sur la base du livre. Voilà. Et je trouve que c'est la seule manière décente de faire ce métier. Maintenant... Après, il se trouve que la nature a été bonne avec moi, c'est-à-dire que je n'ai aucun problème pour dire droit dans les yeux à quelqu'un ce que j'ai pensé de son livre. Or, c'était le principe d'On n'est pas couché. C'était aussi le principe, même encore pire, de Sa balance à Paris. J'ai commencé dans cette émission comme chroniqueur, où là, c'était le système des invités mystères, c'est-à-dire que vous étiez en train de débattre du livre, et tout d'un coup, l'auteur, sans que vous le sachiez, je vous jure que c'est le cas, mes chroniqueurs ne le savent pas encore aujourd'hui, pouvait débarquer sur le plateau. Et là, on voyait les gens qui... avait été très virulent 5 minutes auparavant, se calmer un peu. Moi, je dois dire, ça me fait ni chaud ni froid, du moment que j'ai l'impression de faire mon métier, honnêtement.
Alors, tout au long du livre, il y a des critiques. Alors, vous avez résisté, je pense, mais pas longtemps, à l'idée de ne faire que des critiques négatives.
Oui.
Vous devez être un peu agacé aussi du fait qu'on retienne plus facilement quand vous vous en prenez à quelqu'un que quand vous dites du bien. Ça, c'est un peu
la nature humaine.
Ceci dit, en creux, à la fois au début, dans vos chroniques très fouillées, on a une vision de ce qu'est pour vous la littérature, puisque en posant vos questions, somme toute, vous affirmez des choses. Mais néanmoins, vous, dans vos critiques, qui sont parfois assez brèves, qui demandent une colonne, vous accentuez, vous insistez sur quelque chose. Et on a le sentiment que vous, dans ce livre, vous faites une sorte de portrait de l'écrivain idéal, enfin de ce que pourrait être l'idéal d'un écrivain. Qu'est-ce que, selon vous, quels sont les plus gros défauts des écrivains d'aujourd'hui, etc. Parce que, je cite, hein, Musso, son défaut, c'est le cliché. Amine Le Tombe, c'est la paresse de son style. Salvaire ou Barbery, c'est le politiquement correct. Philippe Roth, c'est son acharnement à continuer à écrire alors qu'il n'y aura manifestement plus rien à faire. Pénac, un peu inconsistant. On a l'impression qu'en vous en prenant, mais parfois de façon plutôt gentille, vous inscrivez le fait que derrière ces postures d'écrivain se cache un écrivain réel. Et quel est-il ? Alors, si vous dites Paul Gadel, bien sûr, je vous dire bravo, mais bon, il est mort jeune et c'était pas facile. Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière vous une sorte d'idéal de l'écrivain ?
Non, mais d'abord,
quelqu'un qui ne viendrait pas devant vous, par exemple.
D'abord, ce que je dois dire, c'est que il y a aussi quelque chose que j'essaie de combattre et qui m'énerve beaucoup. C'est le système de la carte. C'est-à-dire que vous avez des écrivains qui ont la carte et d'autres qui ne l'ont pas. Alors ceux qui ont la carte, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, ce sera de toute façon salué par des grands coups d'encensoir critique. Alors vous avez cité Philippe Ross. Alors Philippe Ross, c'est incroyable parce que parfois c'est des bons livres, parfois des très bons livres et même des grands livres. Et puis parfois c'est vraiment des fonds de tiroir impossibles. C'est exactement traité de la même manière. Je crois qu'il a une maison dans le Maine. Tout le monde fait le pèlerinage dans le Maine et et s'agenouille auprès du grand écrivain, même quand il sort une daube qui aurait été refusée si le nom de Philip Roth n'avait pas figuré sur le manuscrit. Donc il y a déjà ça, je considère que c'est moins un auteur en général qu'il faut traiter, mais c'est livre par livre. Je crois que chaque livre a sa vérité. Moi, il me semble que l'auteur idéal, mais alors à partir de là, son livre peut prendre des formes extrêmement diverses, c'est l'auteur qui est confronté à une nécessité. Est-ce qu'il y a nécessité d'écrire? Vous preniez Paul Gaden, je vais quand même parler de Paul Gaden.
J'ai failli commencer, puis je me suis dit que ce serait bien que...
Je vais vous donner un exemple de nécessité. Paul Gaden, donc, c'est un auteur que j'ai découvert un peu par hasard, là aussi, quand j'avais 20 ans, dans la boîte d'un bouquiniste, et je suis tombé tellement... J'étais tellement foudroyé parce que j'ai lu le premier livre de lui que j'ai lu, c'était L'invitation chez les Sterles, que j'ai décidé de lui consacrer mes deux mémoires universitaires, puis c'est resté une passion. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer... Lui, il est mort assez jeune, en effet, la veuve de Paul Gaden, qui, elle, est morte à un âge assez avancé. Elle m'a raconté l'histoire suivante. À mon avis, ce qui est le plus beau livre de Paul Gaden, c'est ce qui s'appelle « La plage de Scheveningh », qui est toujours disponible en imaginaire chez Gallimard. Ouais. Peut-être qu'ils l'ont repris dans La Blanche. Non, je crois qu'ils
sont... Non, imaginaire, pas exagéré.
Oui, c'est ça, ils sont un peu...
Disparants.
Oui, mais quand même, ça me fait de la peine qu'ils soient... Voilà, moi, je l'ai en édition originale. Bon, enfin, là n'est pas le débat. Elle me raconte la chose suivante. Paul Gaden était déjà très malade. Il souffrait de tuberculose, donc il écrivait couché, etc. Il fait la plage de Scheveningh, voilà. Et puis alors, vous savez, c'était pas l'époque d'Internet et des mails, hein, donc on envoyait son manuscrit à l'éditeur et il donne le manuscrit à sa femme, Yvonne, et elle fait le paquet pour aller à la poste, elle emballe, elle met des ficelles autour, elle est la main sur la porte pour aller à la poste, et Gaden dit non. J'ai des remords, le livre n'est pas exactement tel que je voudrais. C'est un homme qui n'a plus beaucoup à vivre quand même. Il a repris le livre, il l'a refait entièrement. Voilà. Là, vous pouvez voir que, juste dans cette anecdote, on sent la nécessité, je n'ai même pas besoin de développer. Moi, j'ai tendance, ce n'est pas une question de nécessité par rapport à la vie et à la mort, mais il y a des tas de livres dont on sent la nécessité, c'est que quelqu'un est confronté à quelque chose, il faut qu'il l'écrive. Voilà. Alors, je parlais tout à l'heure de Christa Wolff. Christa Wolff, là aussi, elle arrive en fin de vie. Le pays dans lequel elle a vécu toute sa vie, l'Allemagne de l'Est, n'existe plus. Il faut qu'elle fasse un livre bilan. Il se trouve que ça s'appelle « Ville des anges », au seuil. Il se trouve qu'elle en fait un livre. Bon, voilà, c'est un des livres les plus impressionnants que j'ai lus depuis 10 ans. Là, il y a la nécessité de la première à la dernière ligne. Ou quelqu'un, vous sentez bien, même si c'est des sujets moins dramatiques, qu'on sent qu'il fallait absolument qu'il écrive ce livre. Alors, vous avez cité Lydie Salvaire. Lydie Salvaire, par exemple, je prends un exemple. Je personnalise avec elle, mais ça vaut pour plein d'écrivains. Elle écrit un livre qui s'appelle Hymne. Et alors, son truc, c'est qu'elle a découvert l'interprétation par Jimi Hendrix de l'hymne américain à la guitare. C'est quand même une affaire qui remonte à 40 ans. Et ça a changé sa vie. Bon, bah, très bien. Et elle écrit dessus. Alors... Où est la nécessité? Alors, elle essaie de la justifier, elle ne la trouve pas, mais elle essaye quand même. Elle dit, mais vous comprenez, en fait, ce solo de guitare où il massacre talentueusement hein, l'hymne américain, c'est vraiment le signe qu'on est entré dans un monde qui va devenir de plus en plus inhumain. Elle fait tout un développement là-dessus. Bon, moi, je ne sais pas, dans l'article que je lui conseille, je dis, bon, voyons... Quel était le monde avant Hendrix? Voyons si c'était plus humain. Nous avons eu Nagasaki, Hiroshima, la Shoah et le Goulag. Et vous voyez bien que, en réalité, voilà, Salvaire, il faut qu'elle fasse un livre par an. Donc, elle a trouvé ce truc du morceau de Jimi Hendrix. Mais il n'y a absolument aucune nécessité. Et elle va tourner en rond en racontant, à mon avis, un gros paquet d'inepties au passage. Et malheureusement, on sent... que ça ne repose sur rien, que c'est vraiment du blabla, comme disait la distinction qu'établissait Barthes, entre les textes qui parlent, qui nous parlent, et ceux qui babillent. Voilà. Là, ça babille, et on le ressent très fortement. Il y a des textes qui babillent et d'autres qui parlent, parce que simplement, la parole littéraire vient d'une nécessité intérieure. Et cette nécessité intérieure, elle peut prendre vraiment des centaines de formes différentes, mais il n'empêche que vous la ressentez de la même manière. Et il y a presque un sixième sens du lecteur qui dit « Oui, là, on touche à l'essentiel. Là, c'est un livre qui devait être écrit. Et d'ailleurs, c'est un livre que je dois lire. » Mais ça arrive une fois sur 10. Et malheureusement, la littérature française, je trouve, babille plus qu'elle ne parle.
Donc, je vais vous remercier très officiellement d'avoir accepté notre invitation de venir ici. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez.
La semaine prochaine, je reviens.
Voilà. Notamment pour parler de votre premier roman qui sera...
Toujours dans les tiroirs.
Ou un recueil de poèmes. Et là, j'avoue que voir Éric Nolot réciter des poèmes ici sur cette estrade serait un de mes grands désirs.
Je le ferai. Voilà. Si je... Voilà.
Avec une partie en bulgare, bien entendu.
Oui, une traduction simultanée. Voilà.
Et si des gens veulent faire dédicacer qui a un plâtre, qui a un livre, qui bénir une médaille, c'est possible. Vous pouvez venir ici, vous n'avez pas beaucoup de temps. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Merci
et
à vous.
Vos
merci
questions.
À vous. Merci beaucoup.
Alors la chanson sera chantée dans le train, c'est le TGV de 20h18.
Écoutez, je vais vous dire une chose, je chante tellement faux, non mais attendez, je chante tellement faux que c'est presque assimilable à une infirmité. Or, en Bulgarie, c'est un pays de chanteurs, les polyphonies bulgares c'est quelque chose, nous on connaît les polyphonies corses qui sont, les polyphonies bulgares c'est extraordinaire, le mystère des voix bulgares mais tout le reste, et vraiment ce serait, alors que j'ai passé un excellent moment... Ce serait terminé sur une très fausse note au sens littéral de l'expression que de vous imposer ça, d'autant que le climat n'est déjà pas très favorable aujourd'hui. Merci. Mais merci beaucoup de votre présence et de votre attention.